Les milieux humides sont partout autour de nous. Pourtant, on les connaît encore très peu et on les perd, souvent sans même s'en rendre compte. Depuis plus de 50 ans, Canard Illimité Canada agit au Québec pour les conserver, les restaurer et mieux comprendre leur rôle essentiel. Mais derrière ces actions, il y a une histoire faite de projets, d'innovation, de collaboration et surtout de personnes engagées. Dans ce balado, on vous propose de remonter le fil de cette histoire. Je suis Fabien Cloutier et je vous invite à plonger dans l'histoire de Canard Illimité Canada au Québec avec moi. Entre les débuts de Canard Illimité Canada au Québec à la fin des années 70 et aujourd'hui, les façons de travailler et les outils ont beaucoup évolué. Quand on parle de restauration ou de protection des milieux humides, on imagine souvent des milieux naturels riches en biodiversité. Mais derrière ça, derrière un milieu humide restauré, il y a toute une transformation des pratiques, des outils, des connaissances et des façons de collaborer. Pour en parler, on a deux personnes qui ont vu cette évolution de l'intérieur. Claudie, tu es arrivée chez Canard Illimité Canada dans les années 80. Tu as travaillé sur le terrain, en restauration, en acquisition. Tu as vu les pratiques évoluer sur plusieurs décennies. Toi, Sylvie, tu es arrivée au début des années 2000. Tu as joué un rôle clé dans tout le développement de la cartographie et de la géomatique chez Canard Illimité Canada. Merci à vous deux d'être là.
Bienvenue.
À la fin des années 70, Canard Illimité Canada faisait surtout de la restauration de milieux humides. Claudie, comment ça se faisait, un projet, quand tu as commencé chez Canard Illimité Canada?
Mais j'ai commencé, moi, dans les années 80. Puis, c'était plus archaïque qu'aujourd'hui. Donc, tu peux t'imaginer que, en fait, un aménagement, c'est trois grandes étapes, là. La première, c'est la prospection. Après ça, c'est un peu l'évaluation du projet, puis la réalisation. Donc, au niveau de la prospection qu'on faisait du site, on ouvrait les cartes topographiques, on regardait les photographies aériennes du moment, puis pouvoir identifier quels étaient les sites qui avaient certains potentiels. Concernant les photos aériennes, on avait celles du gouvernement qui dataient, mais on en faisait nous autres aussi. Là, on partait en avion avec toujours notre carte, puis on s'enlignait avec le fleuve, avec une rivière, avec un lac, puis on prenait nos photos, puis on revenait au bureau avec nos diapositives, puis on pouvait investiguer un peu, d'évaluer le potentiel de ces aménagements-là. Et puis, lorsqu'on voyait qu'il y avait un certain potentiel, bien, on allait sur le site. Encore là, avec les moyens du bord, on prenait une voiture, on prenait une carte routière, on se rendait, on cherchait le site énormément, mais avec nos boussoles, on réussissait à trouver le site. Puis là, on faisait ce qu'on appelle la reconnaissance biologique. On prenait des notes de qu'est-ce qu'on voyait sur le terrain, point de vue biologique, quels étaient les facteurs limitants. Puis on prenait des notes papier là, sur notre calepin. Des fois, je n'étais pas capable de me relire moi-même qu'est-ce que j'avais écrit avant. Et puis, avec ces informations-là, ça nous donnait un peu l'orientation de quel aménagement qu'on pouvait faire. Puis, c'est la même chose au point de vue génie. Donc, eux autres allaient voir aussi les caractéristiques du milieu, prenaient des notes. On faisait l'arpentage. L'arpentage, c'était pas avec des appareils électroniques, là. C'était vraiment avec une oreille que j'ai tenue bon nombre d'années. Et puis, avec un arpenteur qui avait un viseur, puis on marchait le marais au complet. Puis, avec ces données-là, on sortait le crayon coloré pour avoir les différentes profondeurs d'eau, puis d'évaluer quel serait le niveau d'exploitation qu'on devait utiliser. Les plans, on les faisait papier. Quand on se trompait, on effaçait. Donc, tu peux voir que c'était surtout format papier. Beaucoup de débrouillardise de notre part. C'était approximatif au niveau des superficies, ça, c'est sûr et certain. Puis l'aspect aussi qui était non négligeable, c'était peut-être pas si sécuritaire que ça. Parce qu'on pouvait partir, écoute, dans l'Outaouais, puis mes collègues savaient que j'étais dans l'Outaouais, ma famille le savait, mais où c'est quand même basse, puis je revenais trois jours plus tard, fait que j'aurais pu être perdu tout ce temps-là. Mais fait que c'est... Dans les années 80, là, ça pouvait sembler à ça, là, une visite de terrain. Puis
c'était cow-boy un peu.
C'est un petit peu cow-boy, t'as raison.
Mais dans ces expériences-là, tu me parles de projets d'aménagement. Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce type de projet-là?
Un exemple que je pourrais te donner, Fabien, c'est lorsqu'on arrive sur un site puis il n'y a plus d'eau. Il y avait un barrage de castor où il y avait une infrastructure qui était enlevée puis ça a séché le milieu. C'est à ce moment-là qu'on note, nous autres, quels sont les facteurs qui limitent l'utilisation du territoire pour la faune. Et c'est de cette façon-là qu'on va intervenir. Donc, si c'est un manque en eau, On va y installer des ouvrages de contrôle du niveau d'eau, une digue, un barrage. Et puis, on va s'assurer d'avoir une certaine profondeur d'eau pour optimiser la biodiversité du site. Ça ne sert à rien de faire un lac à l'eau claire. Ce n'est pas nécessairement juste pour le poisson, là. C'est pour un milieu humide. C'est là où il va y avoir une belle répartition d'eau libre et de végétation aquatique. C'est dans ces habitats-là où il y a le plus d'espèces possibles. Donc, un aménagement pour nous qu'on fait, qu'on a réalisé, on en a 300 à travers le Québec, c'est ni plus ni moins de remettre en eau un secteur qui a été asséché, qui a été drainé, avec un ouvrage de contrôle du niveau d'eau. Et puis, on n'amène pas la végétation. La végétation, elle est présente, elle est en dormance. On met en eau, puis on va voir apparaître les quenouilles, on va voir apparaître la sagittaire. Puis, au fur et à mesure, la faune va commencer à s'installer. Ils vont nicher, ils vont se reproduire là. Puis, tous les utilisateurs des milieux humides, ils vont y aller autant faunique que les chasseurs ou mais les observateurs de la nature.
J'imagine que dans la géomatique aussi, là, ça a changé.
Bien, tu sais, moi, je suis arrivée... La géomatique, là, a été implémentée plus au niveau des années 2000. Fait que j'arrive plus loin dans le récit de Claudie, là. Tout ça, moi, j'étais encore à l'école primaire.
Ça me rajeunit pas.
Ça a été dit.
Ça a été dit. Faut savoir de quoi, les cheveux blancs,
ouais,
là.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça, tu sais, essentiellement, je pense que c'est les cartes topo, c'est les cartes papier, c'est les petits carnets, les relevés, tout est fait de façon manuelle, puis on arrive plus tard pour informatiser tout ça. Là.
Il n'y avait pas de base de données, j'imagine. Au départ, là, on partait, on découvrait un terrain, puis tout était à faire. Là.
Absolument, absolument. C'était... on l'a quand même beaucoup survolé. Le Québec, on l'a survolé, comme je disais tantôt, en avion. On l'a marché beaucoup. Mais il n'y avait pas de base de données. Les bases de données, c'était une échelle qu'on ne voyait rien. C'était une échelle nationale. Puis on n'avait pas le détail du projet proprement dit. Donc, la base de données était inexistante.
C'était presque partir avec un livre, des cartes papier, puis tu sais, pas toujours complètement à jour.
Absolument. C'était tout enregistré, c'était storé dans des classeurs, des filières à papier, avec des tiroirs étiquetés au numéro des feuillets topographiques. Puis là, tu trouvais, tu avais un index, tu trouvais ton feuillet, tu trouvais ta localisation, exact. Puis là, tu trouvais la reconnaissance biologique que Claudie avait fait dans les années 80.
Ah, quand même. Alors, au début, il y avait énormément de débrouillardise dans ça, puis la connaissance reposait sur les connaissances des individus eux-mêmes, là, des gens qui étaient impliqués. Est-ce que j'imagine que ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui. C'était donc un peu moins précis par le fait même.
Exactement. C'est sûr que lorsque tu vas sur le terrain, tu prends des relevés de terrain, veux pas, faut que tu les renotes rendus au bureau, tu les mettes au propre, tout ça. Donc, c'était beaucoup plus laborieux. Puis, ça rentre sur un site, quand un GPS, ça arrive directement. Mais là, quand tu cherches ton site, c'est beaucoup plus long. Fait que c'était beaucoup plus lent, définitivement.
Puis, est-ce qu'au début des années 2000, là, avec les nouvelles technologies, puis ça a changé les façons de travailler? Concrètement, ça a changé quoi sur le terrain?
Bien, sur le terrain, en fait, moi, je voyais tout ça aller avec les cartes topo. Puis moi, quand je suis arrivée, bien, l'exercice a été de numériser tout ça, puis faire des bases de données avec ces cartes topographiques-là. Puis après, bien, tu sais, la géomatique, c'est la compréhension du territoire. Fait que là, elle vient avec ça, bien, un paquet, tu sais, on met ensemble des bases de données pour avoir une meilleure compréhension du territoire. Ça fait en sorte que sur le terrain, bien, après... C'est plus facile de se retrouver, de trouver ton site, de t'orienter, puis d'extraire plein de données pertinentes pour faire le travail éventuellement. Là.
Fait qu'il y avait les connaissances des individus, mais la technologie a rendu le travail aussi plus efficace.
Absolument. Concrètement, moi, Sylvie l'a souligné, juste pour se rendre avec un GPS, c'est déjà un plus qu'une carte routière ouvert dans l'auto que tu vois pas où tu roules. L'autre élément aussi, le GPS nous a permis de localiser l'emplacement des caractéristiques du milieu parce qu'avant, on se mettait un petit X, mais c'est jamais précis. Là, maintenant, avec le GPS, on emmenait l'information à la maison ou au bureau, puis on l'avait précisément. L'autre élément aussi non négligeable, c'est la base de données qui a été ramassée. Avec cette base de données-là, nous, avant même d'aller sur le site, on avait beaucoup de documentation au niveau régional, au niveau territoire. la base de données nous donnait beaucoup d'informations avant même d'aller sur le site. Ça, c'était déjà un plus. Ça pouvait orienter nos...
Il y avait une préparation qui pouvait être plus précise avant de se rendre.
Puis, un des éléments qui, pour moi, c'était vraiment révolutionnaire, là, c'est l'arrivée des iPads puis des formulaires numériques. Mes notes papier, que je n'étais pas capable de me relire, c'était saisi dans un formulaire. Donc, je complétais, c'était beaucoup plus facile. Si j'avais à retourner sur le site, l'information était déjà là. Puis ça, c'est un plus. Avec le iCloud, on avait accès à nos serveurs. Donc, en direct, je pouvais me rappeler le site que j'avais été voir avant ou je pouvais être dans le territoire. Fait que ça, d'avoir accès facilement à nos notes, c'est vraiment un plus. Au niveau de l'arpentage, c'est de beaucoup améliorer parce que là, on était beaucoup plus précis. L'arrivée du drone aussi. Le drone facilité aussi les déplacements là, sur le territoire. Il fallait tout le marché, mais des fois, juste avoir une idée de ce qui se passe complètement au bout du marais, c'était assez pour nous. Donc, c'est toutes les technologies qui s'est améliorées. Puis, tantôt, je parlais au niveau de la sécurité, mais ça aussi, ça s'est amélioré parce que là, on avait le cellulaire. On avait des GPS. Sylvie nous a doté d'un GPS dans des endroits où le réseau ne passe pas, mais au niveau satellitaire, on pouvait envoyer un message si on était en détresse. Puis la façon de faire aussi, là, on disait exactement ce qu'on allait, puis dans le midi, on se rapportait aussi, chose que au lieu de 3 jours plus tard, mais là, c'était dans l'avant-midi. Là.
3 jours plus tard, il y a quelqu'un qui sort du bois, puis on est de bonne humeur parce que ça a fonctionné. Exact. Est-ce que ces nouveaux outils-là que vous avez eus à votre disposition, ils ont changé autre chose aussi dans le travail?
Bien, tout s'est accéléré à partir du moment qu'on a géomatisé nos processus dans les équipes de conservation, autant en protection qu'en restauration. Bien là, il s'est dégagé un consensus d'expertise en milieu humide. Puis de là est né des besoins. Parce que la géomatique, c'est la connaissance du territoire. On croise des bases de données pour avoir une meilleure lecture du territoire. Mais rapidement, la conclusion, c'est qu'on n'avait pas de données efficaces sur les milieux humides. Il n'y avait pas de cartographie de milieux humides ou très peu, ou celle qu'on avait n'était pas assez détaillée pour le besoin de détails qu'on avait besoin dans les investissements qu'on voulait faire dans les milieux humides. Fait que, on a pris ces connaissances-là, puis on a fait un programme de cartographie détaillée des milieux humides qu'on a commencé modestement, mais qui maintenant est devenu un programme fort là, chez Canard Illimité au Bureau de Québec. Mais c'est ça, ça s'est construit, je dirais, en dedans de 10 ans. Là, les 10 ans avant la carto détaillée, c'était tout colligé, ces bases de données-là, passer de l'expertise. Bon, Claudie, elle l'a dit, c'est pas des blagues, là, ils faisaient des cartes à la main avec des prismes. Alors, quand je suis arrivée, je suis OK, ben là, tu sais, on fait ça à l'ordinateur avec des logiciels de géomatique. Puis bon, ce qu'ils faisaient, ça leur prenait une semaine, là, colorier leur marais ou marais, tout ça. Tu sais, je fais ça en 20 minutes là, dans le logiciel. Fait que, tu sais, ça a vraiment accéléré beaucoup de choses dans le rendu, puis dans les produits que les techniciens puis les biologistes ont besoin pour aller vendre leurs projets, demander de l'argent, rencontrer les propriétaires.
J'imagine que de pouvoir mettre toutes ces cartes-là ensemble ou de tout relier ça a permis de faire des analyses plus approfondies, à plus grande échelle.
Bien, absolument, parce que c'est la géomatique, on répond à des questions. La question, c'est sont où les milieux humides? C'est quoi la superficie de ce milieu humide-là? Où on devrait aller investir l'argent? Quel milieu humide a plus de pression anthropique qu'un autre? On répond à ces questions-là. Fait qu'effectivement, plus qu'on a de bases de données, bien, plus que le résultat est cohérent puis il fonctionnel après pour tout le monde. Là.
Donc, les outils ont changé, la façon de faire ont changé, la compréhension, la connaissance du territoire, mais est-ce que cette expertise-là que j'ai développée chez Canard Illimité Canada, ça a changé la place de Canard Illimité au Québec?
Bien oui, parce qu'on est passé d'expert en restauration de milieux humides en expert de milieux humides, puis à toutes sortes de milieux humides. Puis ça, c'était pas dans les années 70-80, c'était pas la signature de Canard Illimité, mais maintenant, ce l'est avec la carto puis les classifications qu'on a élaborées pour la carto détaillée des milieux humides, ben effectivement là, on peut se dire que chez Canard Illimité, on est des experts en milieux humides et en protection aussi, mais bon, c'est plus large que c'était, fait que ça a un impact significatif dans les prises de décision. T'sais, nos bases de données sont intégrées dans les municipalités, les MRC, on travaille avec le gouvernement du Québec, on a influencé aussi la loi maintenant qui protège les milieux humides qui a été votée en 2017, on a eu un impact significatif, je dirais, à cause de la carte détaillée.
À ça, Fabien, je pourrais ajouter que pour mon travail, ça l'a facilité beaucoup. J'ai parlé tantôt que toute la base de données nous aidait dans mon analyse pour réaliser un aménagement, mais ça nous a donné aussi une grande crédibilité. Mon approche était beaucoup plus facile envers nos partenaires, envers un nouveau propriétaire. Avant, je devais partir de plus loin ma conversation avec mon intervenant pour expliquer qu'est-ce que Canalité, qu'est-ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Mais ces bases de données-là ont donné une visibilité puis une crédibilité à Canalité de sorte que mon approche était beaucoup plus facile. Les gens étaient déjà en confiance avant même que j'aie ouvert la bouche pour leur proposer un aménagement. Donc, pour moi, c'était la géomatique, ça a été révolutionnaire parce que ça m'a ouvert des portes pour faire des aménagements ou faire même des acquisitions parce que j'ai fait partie aussi de l'équipe d'acquisition. Puis quand les gens connaissent, il y a eu un bruit de fond auprès de Canalité, bien, c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis ça, je dois donner crédit à l'équipe de technologie parce qu'ils ont été à l'écoute de nos besoins. Puis des fois, on sollicitait leur aide pour faire un nouvel outil, mais des fois, c'est eux autres qui nous arrivaient en disant « Vous devriez faire ça, on a ce type d'outil-là. » Fait qu'ils nous ont facilité la chose. Puis la cartographie qui se faisait à l'échelle provinciale, ça nous a ouvert des portes beaucoup plus facilement pour les autres équipes de Canalité.
Puis je pense que ces données-là, si je ne me trompe pas, circulent. Là. Moi, je suis propriétaire d'un lot forestier, puis c'est pas long que si on va sur les cartes de MRC, on a des outils où on peut appuyer, puis on sait directement où sont les zones humides. Fait qu'on parle des MRC, mais c'est pour les propriétaires, c'est pour les gens qui sont sur ces terres-là, qui savent directement même ou avant d'acheter une terre ou de projeter d'avoir quelque chose, quelle zone ils ont là, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir aussi à protéger en partant. Parce que ce qu'on protège au départ, bien, ultimement, on n'aura pas besoin de le restaurer. On sauve une étape.
Absolument.
Et puis le développement de cette expertise-là, puis de la crédibilité-là, ça a changé quoi dans les façons de faire de Canard Illimité ici au Québec?
Bien, c'est un peu ce que tu viens de dire. On a une carte interactive qui est très consultée. À chaque jour, j'ai des commentaires de gens qui consultent cette carte-là. Nos bases de données sont en données ouvertes. Alors, tous nos partenaires peuvent les télécharger, mais aussi les citoyens peuvent les consulter. Et puis, ça a permis... D'ailleurs, c'est une belle carte de visite pour nous, pour le programme de carto. Bien, chaque municipalité, chaque MRC veulent leur carto détaillée. Fait que déjà, ça crée un précédent, les gens la veulent, ça crée un intérêt, puis ça crée aussi une visibilité, comme Claudie l'a expliqué, pour le démarchage, pour rencontrer des propriétaires, pour faire des partenariats. C'est un outil incroyable, puis ça c'est la force. C'est la force de la connaissance locale avec notre expertise en milieu humide.
Est-ce que c'est ça qui peut vous amener des fois à peut-être voir un milieu humide sur une carte, puis peut-être à penser à un projet d'acquisition ou des choses comme ça, d'en voir un qui est extrêmement riche, puis de que tout à coup l'organisation puisse avoir un œil dessus d'une certaine façon.
Absolument, parce que c'est lorsqu'ils vont faire la cartographie, ils vont mettre ils vont y donner des caractéristiques, des paramètres à chacun des milieux humides, puis ils vont même identifier s'il y a des sites qui sont potentiels. Nous, ça va popper, puis on va aller les voir ces sites-là, on va pouvoir les analyser. Assurément que cette façon de faire-là a changé, a mis la Canalité au Québec différemment. Parce que nous, on faisait un projet à la fois, puis on était seul dans le développement du projet. On était avec le partenaire qui était le propriétaire privé ou le gouvernement, mais on faisait un projet puis on l'avançait au complet. Là, avec les connaissances puis le rayonnement de la cartographie, là, le téléphone a sonné. Au lieu que ce soit nous autres qui appellent pour trouver des projets, là, c'est le téléphone qu'on arrivait pour nous soumettre des projets, un partenariat. Puis, ça nous a fait réaliser plus d'aménagements en même temps, dans la même année. Puis, ça nous a amené des partenariats pour soit un nouveau projet ou soit que l'organisme local faisait un bout de chemin pour l'aménagement. Puis, nous, on concrétisait le reste. Mais définitivement, le mot partenariat, là, c'était nouveau à ce moment-là avec tout le travail en amont de la géomatique.
Puis, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? T'sais, au bout de toutes ces années-là, là, de tous les changements de technologie, qu'est-ce qui est le plus impressionnant à voir comme changement?
C'est sûr qu'on travaille beaucoup plus efficacement dans nos interventions. On est plus rapide, on est plus sérieux. Ça donne, je l'ai mentionné tantôt, ça donne une crédibilité à Canal Unité. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que un aménagement, on en a tellement fait, puis on a tellement fait face à l'adversité parce qu'on avait des enjeux au niveau environnemental, au niveau en chantier lors de la construction, que on est devenu meilleur. On est devenu meilleur de fois en fois, puis on est devenu confiant aussi. Lorsque nos partenaires financiers nous offrent un financement pour un projet, ils sont assurés qu'on va le réaliser. Mm-hmm. Il n'y a pas d'embûche qui va nous empêcher de réaliser le projet. Parce que on est confiant, puis on sait que d'une situation qui nous est arrivée, on a trouvé une solution, puis on l'a corrigée. Fait que moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir là, comment dans un aménagement, avec les outils de conservation qui sont améliorés, aussi l'expertise qu'on a développée, puis qu'on est efficace dans nos interventions.
C'est bien.
La rapidité, mais la précision aussi, tu sais. On est passé de quelqu'un qui se rend sur un terrain approximativement, pas trop d'idées c'est quoi la superficie, alors que là, il arrive dans... Il y a une carte, dans l'iPad, il y a 10, 20 bases de données, t'as du LIDAR, t'as des images satellitaires, t'as des images à haute résolution, ils ont tout ça accessible au terrain, le diagnostic est vraiment plus rapide, il y a une partie qui a été faite au bureau d'avance, il y a une sélection des sites qui a été faite en amont, c'est beaucoup plus chirurgical les interventions terrain, on le sait, le coût de la vie augmente, ça coûte beaucoup de sous à se déplacer sur le terrain. Les équipements sont dispendieux, fait qu'on a besoin de pas perdre notre temps.
Ouais, ouais.
Je sais pas qui, tu sais, mais c'est ça.
C'était un autre temps.
C'est un autre temps, puis ben faut être très 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 efficace quand on fait du terrain. Tu sais, nous dans le cadre des campagnes de terrain, de la carte détaillée, tu sais, c'est une vingtaine de sites par jour là qu'on visite, qu'on documente, qu'on remplit un formulaire très exhaustif là à chaque fois. On sonde le sol, tu sais, c'est beaucoup beaucoup d'informations qui est colligée en très peu de temps. Puis après ça, ça construit des bases de données qui, tu sais, après, c'est infini, les analyses qu'on peut faire de façon géomatique avec ça. Là. Fait que c'est le pace, puis c'est la précision qui est vraiment à un autre niveau.
Puis malgré tout ça, est-ce qu'il y a des choses, malgré les avancées technologiques puis l'expertise, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé chez Canard Illimité Canada?
Ben l'expertise, l'humain, répondre aux besoins. T'sais, moi, de mon côté, en géomatique, j'ai pas tant l'impression que ça a changé mon rôle parce que c'est d'être à l'écoute, c'est de proposer des solutions puis de faire le meilleur choix de la technologie disponible, mais c'est l'expertise de l'humain. T'sais, ça, on peut faire des études scientifiques en interrogeant des bases de données, mais ça reste que c'est l'humain qui va appliquer les solutions sur le terrain. Puis ça... Même avec l'IA, ça ne va pas tant changer.
Ouais, c'est de l'expertise au service de l'amour du territoire puis de la conservation.
Puis des choses, moi, qui, à mes yeux, qui n'ont pas changé depuis toutes ces années-là, parce que j'ai vécu 40 ans chez Canard Unité, j'ai pris récemment ma retraite, mais c'est le terrain. Tu ne peux pas passer à côté de développer un projet si tu n'as pas été sur le terrain, si tu ne te l'es pas approprié, si tu ne l'as pas marché. Ça, je pense que les investigations terrain, ça n'a pas changé. Il faut se l'approprier. L'autre élément, c'est un développement d'un aménagement, que ce soit en acquisition ou en restauration. On a des étapes, on a un cheminement critique. Passe pas une étape parce que c'est sûr qu'il va falloir que tu y reviennes. Si tu as coupé court, il va falloir que tu le fasses. Puis le contact humain. Ça, c'est la force de la calamité. On parle aux gens, on les écoute, on est attentif à ce qu'ils disent. Puis on va quand on engage un entrepreneur, on va voir le site avec lui, puis on prend le pouls, quel genre de personne il est, parce qu'on veut l'avoir, notre signature à nous. On a un standard de qualité qu'on a. Fait que le contact humain, ça, on l'avait dans les années 80, on l'a encore aujourd'hui, puis c'est la force de l'entreprise.
On comprend que les outils ont changé, les méthodes ont évolué, mais que l'essentiel du travail est resté le même. Merci, Claudie. Merci, Sylvie, pour ce regard précieux sur l'évolution des pratiques chez Canard Illimité Canada. À bientôt.